Lamonrud était pourvu d'une couronne, une imposante éminence telle un promontoire de pierre, arasé et dénudé au sommet. Du côté nord, un ressaut formait une terrasse aplanie et presque carrée que l'on ne pouvait apercevoir d'en bas car la couronne de la colline formait une paroi sur l'arrière et les versants ouest et est tombaient en falaise à pic. C'est seulement par le nord d'où ils étaient venus que ceux qui savaient le chemin pouvaient l'atteindre sans peine. Un sentier qui prenait dans la faille conduisait à un petit bosquet de bouleaux nains qui poussait aux abords d'une fontaine limpide entre ses margelles taillées dans le roc. Cette fontaine était alimentée par une source qui jaillissait juste au pied de la paroi, formant un ruisselet qui déferlait en un blanc filet d'eau par-dessus la corniche occidentale de la plateforme. Derrière l'écran des arbres entourant la source, entre deux forts remparts de roc, s'ouvrait une caverne. En apparence, une grotte peu profonde, avec une arche basse et voûtée. Mais la grotte s'enfonçait sous la colline, car elle avait été excavée plus avant par les mains patientes des petits nains, durant les longues années où ils avaient vécu là, sans avoir à se soucier des elfes gris des bois. Il faisait presque nuit close, lorsque, conduits par Mime, ils parvinrent au bassin où miroitaient les pâles étoiles parmi les ombres des rameaux de bouleau. À l'entrée de la grotte, Mime se retourna et s'inclina devant Turin.
« Entre, » dit-il. « Voici Bar-en-Danwed, la maison de la rançon, car tel sera son nom. »«
Cela se peut, » dit Turin. « Je vais d'abord regarder. » Et il entra avec Mime, et les autres, le voyant pénétrer sans peur, suivirent, même Androg, qui était le plus méfiant envers le nain. Ils furent bientôt plongés dans de noires ténèbres. Mais Mime frappa des mains, et une petite lumière apparut d'une encoignure. Et d'un passage ménagé dans le fond de la grotte extérieure, survint un autre nain portant une petite torche.
« Ah, je l'ai manqué comme je le craignais !» s'exclama Androg.
Mais les nains se mirent à parler entre eux avec véhémence, dans leur langue rocailleuse, et Mime, apparemment bouleversé ou indigné par ce qu'il entendit, se précipita dans le passage et disparut. Alors Androg voulut pousser de l'avant.
« Il faut attaquer les premiers » dit-il. Il y en a peut-être toute une ruche, mais ils sont petits.
« Trois seulement, je crois, » dit Turin. Et il prit les devants, tandis que les hors-la-loi le suivaient, tâtonnant le long des murs rugueux. À plusieurs reprises, le passage obliquait d'un côté puis d'un autre à angle aigu. Mais finalement, une lueur défaillante brilla au loin, et ils débouchèrent dans une petite salle aux dimensions restreintes mais hautes de plafond, éclairée faiblement par des lampes qui jaillissaient des sombres combles pendu à de fines chaînes. Mime n'était pas là, mais on pouvait entendre sa voix, et conduit par elle, Turin vint à la porte d'une chambre qui s'ouvrait vers le fond de la salle. Jetant un regard à l'intérieur, il vit Mime agenouillé par terre. À côté de lui se tenait silencieux le nain à la torche. Mais sur un lit de pierre, près du mur du fond, un autre nain gisait.
« Kim ! Kim ! Kim ! »
se lamentait le vieux nain en s'arrachant la barbe.
« Tes flèches n'ont pas toutes dévié, » dit Turin à Androg. « Mais le coup se révélera peut-être bien malheureux. Tu lâches tes flèches par trop inconsidérément. Mais aussi, il est probable que tu ne vives pas assez vieux pour apprendre la sagesse. »
Et entrant doucement, Turin se plaça derrière Mime et lui parla.
« Qu'est-ce qui te fait souci, Mime ? » demanda-t-il. « Je sais quelques secrets de guérison. » « Est-ce que je peux te venir en aide ?»
Mime tourna la tête, une flamme écarlate dans les yeux.
« Non, à moins que tu puisses renverser le cours du temps et ensuite couper les mains cruelles de tes hommes, » répondit-il. « Voici mon fils transpercé d'une flèche. À présent, il est au-delà de la parole. Il est mort au couchant. Tes liens m'ont empêché de venir le guérir. »
De nouveau, sa pitié depuis longtemps figée afflua au cœur de Turin comme l'eau sur la roche.
« Hélas, » dit-il, « je rappellerai le trait si j'en avais le pouvoir. Désormais, Bar-en-Danwed est bien la maison de la rançon, la bien nommée en vérité. Car que nous y vivions ou non, je me tiendrai pour ton débiteur. Et si jamais je viens à posséder de la richesse, je paierai une rançon en pièces d'or de bon aloi pour ton fils, en gage de chagrin, bien que cela ne puisse redonner joie à ton cœur. » Alors Mime se leva et longuement considéra Turin.
« Je t'entends bien, » dit-il, « et j'en suis tout émerveillé car tu parles comme un seigneur nain d'antan. Mon cœur à présent est apaisé, bien que sans joie aucune. Je payerai donc ma propre rançon. Si vous le souhaitez, vous pouvez vivre ici. Mais j'ajouterai ceci. Celui qui a décoché le trait devra briser son arc et ses flèches. Il les déposera aux pieds de mon fils. Et jamais plus il ne maniera l'arc et les flèches. Et s'il le fait, il gagnera d'en mourir. Voilà la malédiction que j'appelle sur sa tête. »
Androg eut grand-peur lorsqu'il entendit ces mots. Et à son amer regret, il brisa son arc et ses flèches et les posa au pied du lit du nain trépassé. Mais ressortant de la chambre, il jeta un regard mauvais à Mime, murmurant «
La malédiction d'un nain ne s'épuise jamais, dit-on, mais celle d'un homme peut aussi toucher au but, qu'il meure donc d'un trait dans la gorge. »
Cette nuit-là, ils couchèrent dans la grande salle et leur sommeil fut troublé par les lamentations de Mime et Iboun, son autre fils. Quand elles cessèrent, ils ne s'en rendirent point compte. Mais lorsqu'ils s'éveillèrent enfin, les nains avaient disparu, et la chambre était fermée par une pierre. La journée était de nouveau radieuse, et sous le soleil matinal, les hors-la-loi se lavèrent à la fontaine et apprêtèrent les nourritures qui leur restaient. Et comme ils mangeaient, Mime se trouva debout devant eux. Il s'inclina devant Turin.
« Il est parti, et tout est accompli, » dit-il. Il gît avec ses pères. Maintenant, nous nous tournons vers la vie qui demeure, bien que les jours nous soient peut-être comptés. La maison de Mime te plaît-elle? La rançon est-elle acquittée et favorablement agréée?
Elle l'est, dit Turin.
Alors tout est à ta disposition pour que tu organises ton séjour ici à ta guise, sauf pour ceci. Cette chambre qui est fermée, nul autre que moi ne l'ouvrira.
Nous t'entendons, dit Turin. Et quant à notre vie ici, nous sommes en sécurité, ou du moins il semble. Mais il nous faut cependant de la nourriture et d'autres choses. Comment sortirons-nous? Et surtout, comment retrouverons-nous le chemin du logis? Ils se troublèrent au grand rire de Mime.
Vous craignez donc d'avoir suivi une araignée au cœur de sa toile? Dit-il. Mime ne mange pas les hommes. Et une araignée aurait tort d'affronter 30 guêpes d'un coup. Vois donc, vous êtes armés, et me voilà devant vous les mains nues. Non, il nous faut partager, vous et moi, la maison, la nourriture et le feu, et peut-être d'autres gains. La maison, je pense que vous veillerez sur elle, et que vous en garderez le secret dans votre propre intérêt, même lorsque vous connaîtrez les moyens d'y entrer et d'en sortir. Vous les apprendrez avec le temps, mais en attendant, Mime doit vous guider, ou bien Iboun, son fils. »
À cela, Turin acquiesça, et il remercia Mime, et la plupart de ses hommes se réjouirent. Car sous le soleil du matin, au fort de l'été, c'était un lieu bel et bon où séjourner. Androx seul était mécontent.
« Plus rapidement serons-nous maîtres de nos allées et venues, mieux cela vaudra, » dit-il. Jamais encore n'avons-nous traîné avec nous dans nos opérations un prisonnier qui aurait eu quelque raison de nous en vouloir. »
Ce jour-là, ils se reposèrent et nettoyèrent leurs armes et raccommodèrent leurs hardes, car ils avaient encore de quoi subsister un jour ou deux, et Mime leur fit la poing. Il leur prêta 3 grandes marmites et du bois pour le feu, et il apporta un sac.
« Pas grand-chose, » dit-il. « Ça ne vaut même pas d'être volé, juste des racines sauvages. »
Mais cuites, ces racines se révélèrent bonnes à manger, un peu comme du pain. Et les hors-la-loi les trouvèrent à leur goût, car ils avaient perdu depuis longtemps le goût du pain, sinon celui qu'ils arrivaient parfois à dérober.
« Les elfes sauvages ne les connaissent pas. Les elfes gris ne les ont pas découvertes. Et les fiers, ceux qui viennent de l'autre côté de la mer, ils sont trop fiers pour fuir la terre, »
dit Mime. « Quel est leur nom ? » dit Turin. Mime lui jeta un regard en coin.
« Elles n'ont pas de nom, sinon dans la langue des nains que nous n'enseignons pas, » dit-il. et nous n'enseignons pas aux hommes à les trouver, car les hommes sont trop avides et trop imprévoyants, et ils n'en épargneraient aucune, mais ils les ramasseraient toutes jusqu'à la dernière. De nos jours, lorsqu'ils vont fureter dans la nature, ils passent sans les voir. De moi tu n'apprendras rien de plus, mais je te prodiguerai mes richesses tant que tu me diras de respectueuses paroles et ne m'épieras ni ne me voleras. »
Et de nouveau, il rit de son rire de gorge.
« Ces racines ont grande valeur, » dit-il. « Elles valent plus que de l'or lorsque la faim rôde l'hiver, car on peut en faire provision comme l'écureuil ses noisettes. Et déjà, nous engrangeons les premières venues à maturité. Mais vous êtes bien fou si vous pensiez que je n'étais pas prêt à abandonner ma charge pour sauver ma vie. »
« Je t'entends bien, » dit Oulrad qui avait fouillé dans le sac de mime lorsqu'il avait été fait prisonnier.
« Et pourtant tu n'as pas voulu t'en séparer, et tes paroles m'ont intrigué d'autant. »
Mime se tourna vers lui et le considéra sombrement.
« Tu es l'un de ces imbéciles que le printemps ne pleurerait pas si tu périssais en hiver, » dit-il. « J'avais donné ma parole, de sorte que je serais revenu, de bon ou de mauvais gré, avec le sac ou sans, quoi que tu puisses penser, homme sans foi ni loi. Mais je n'aime pas que mon bien me soit arraché par des vilains, quand bien même ce ne serait qu'une lanière de chaussure. Crois-tu que j'ai oublié que tes mains étaient parmi celles qui m'ont chargé de liens et maintenu prisonnier, de sorte que je n'ai jamais plus parlé avec mon fils ? Et chaque fois que je répartirai le pain de la terre de mes réserves, tu passeras ton tour, et si tu en manges, tu le devras à la prodigalité de tes compagnons, pas à la mienne. »
Et Mime s'en alla. Mais Oulrad, qui avait baissé la tête sous l'orage, s'exclama lorsqu'il eut le dos tourné.
« De grands mots ! Et pourtant le vieux coquin avait autre chose dans son sac, de forme analogue, mais plus dur et plus lourd. » Peut-être y a-t-il encore autre chose dans la nature sauvage, hormis ce pain de la terre que les elfes n'ont pas trouvé et que les hommes ne doivent pas connaître.
« Cela se peut, » dit Turin. « Cependant, le nain a dit vrai sur un point au moins, lorsqu'il t'a appelé un imbécile. Pourquoi dire ce qui te passe par la tête ? Le silence, si les paroles de courtoisie te restent dans la gorge, aurait bien mieux servi nos affaires. » La journée s'écoula paisiblement, et aucun des hors-la-loi ne désira aller au dehors. Turin arpentait la verte pelouse de la plateforme, d'un bord à l'autre, regardant à l'est, à l'ouest et au nord, et il s'étonnait que son regard portât si loin dans l'air limpide. Au nord, il scruta l'horizon et distingua la forêt de Brethil, verdoyante, et qui grimpait tout autour de l'Amon Obel en son milieu. Et encore et toujours ses yeux étaient attirés de ce côté sans qu'il sût pourquoi. Car son cœur regardait plutôt au nord-ouest, à des lieues et des lieues, et à la lisière du ciel, il croyait entrevoir les montagnes de l'ombre, les remparts de son pays natal. Mais le soir, Turin regardait vers l'ouest, vers le couchant, tandis que le soleil plongeait écarlate dans les lointains brumeux au-dessus des rivages, et que le val du Narog s'enténébrait dans l'entre-deux. Ainsi commença le séjour de Turin, fils de Urin, dans la demeure de Mime, à Bar-en-Danwed, la maison de la rançon. Pour l'histoire de Turin entre sa venue à Bar-en-Danwed jusqu'à la chute de Nargothrond, voir le Silmarillion et l'appendice à la geste des enfants de Urin ci-après.